بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je me rappelle de la question d'un frère qui m'avait donc demandé de donner quelques explications concernant la mort. C'est pas le sujet le plus amusant, le plus gai, c'est très clair. Mais d'une certaine façon, tout ce qu'on est en train de préparer, hein, nos a'mal, nos laylatul qadr, nos ibadah, et surtout nos doigts, Allahumma inna ka'afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, qu'on a eu l'occasion d'expliquer et d'écrire un peu le sens des explications. Ben, tout ce qu'on est en train de demander, là, le pardon d'Allah, l'objectif c'est quoi? C'est de bien mourir, en fait. Le but c'est de bien mourir. C'est de bien vivre. Vivre dans le sens où on est dans le contentement d'Allah, on a l'agrément d'Allah. Et le verset qu'on aime bien citer, Inna sa'iyakum la shatta, on a donc des sa'is, des parcours qui sont différents. Faire en sorte que nous soyons dans le droit chemin et quitter ce dunya avec le contentement d'Allah Azza wa Jalla. Obtenir le pardon qu'on demande de façon intensive dans le doua de la dernière des quatre, c'est justement bien mourir et pour que l'ange de la mort reprenne notre âme de la meilleure des façons. C'est ce qu'on va essayer de développer. Et puis un autre point aussi, on voit depuis le début de Ramadan, le taux de mortalité, c'est impressionnant. On est à peut-être 14 mayettes, hein, 14 mayettes à peu près depuis le début de Ramadan, peut-être plus. Hein. Si vous venez du côté de Sainte-Clotilde, c'est presque un mayette tous les deux jours, tous les trois jours. Hein. Et donc ça, c'est pas véhiculé par les messages. Donc il y a beaucoup de décès dans ce mois de Ramadan. Et ben, c'est une étape incontournable. On a besoin de se préparer. La personne fait son fajr en jamaat, il vit comme nous, il fait son sehri, il prévoit de jeûner, de rompre le jeûne. Ça peut être nous qui traversons la rue, ça peut être nous qui, voilà, quoi, on prend la route, on prend la quatre voies, on sort d'une bretelle et tout. Qui peuvent arriver n'importe quand. Ce n'est pas conditionné par l'âge, ça je pense qu'on a tous bien compris, et pas conditionné par la maladie. Et puis également parmi nous, on a eu peut-être des décès qui nous ont profondément perturbés. Je pense à Zakaria Mohamed qui ont perdu leur papa et d'autres membres du groupe qui ont perdu des proches ces dernières années. Ben, des fois, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe également. Qu'est-ce qui se passe, je veux dire, exactement. Là, ils sont partis, ils sont où? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont heureux là où ils le sont? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour eux? Moi, je suis triste tous les jours, je me réveille, je pense à mon père décédé ou mon grand-père ou un proche et ça m'accable. Et est-ce que vraiment j'ai de quoi être accablé? Est-ce que j'ai raison d'être attristé comme ça? Ben, on va voir que tout est conditionné cette fois-ci par rapport à Inna sa'iyakum la shatta, comment la personne a vécu de ce dunya. Et on va voir que le croyant musulman, le croyant qui a avancé dans le droit chemin, et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. De le Ramadan, il est motivé à fond pour essayer d'avancer dans le droit chemin. Celui qui a vécu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, mes chers frères, mes chers amis, quitter ce dunya, c'est du pur bonheur. Ça fait bizarre de le dire. Hein. Le muttaqi, on va l'appeler le muttaqi, hein, l'homme pieux qui quitte ce dunya, au moment où l'ange de la mort vient reprendre son âme, c'est du bonheur pour lui. Il y a certes la douleur quand l'âme se sépare du corps. Ça, c'est une réalité. Même le prophète alayhi salat wa salam a témoigné dans le sakaratul maut, dans l'agonie de la mort, que c'est quelque chose qui est vraiment terrible, qui est douloureux. Mais je veux dire, passer cette étape, même si je ne minimise pas la chose, hein, passer cette étape, ce n'est que du bonheur pour le muttaqi qui rejoint son Seigneur Azza wa Jal. Alors, tout d'abord, pour répondre à la question, ça, c'est la façon, la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et quand on suit le droit chemin, c'est toujours se référer au Coran en premier, les versets, et ensuite se référer à la Sunna et d'essayer d'aller vers les deux sources que notre prophète alayhi salat wa sallam nous a amené. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent de la mort. On a retenu le verset parce que je dis encore, on parle du croyant pieux qui quitte ce dunya, quelqu'un qui a pratiqué correctement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbuna الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الوعد c'est quoi? La promesse d'Allah. J'ai pas amené la traduction, mais le sens du verset, certes ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, ثم استقاموا. Dans استقاموا, on retrouve un terme qu'on connaît, c'est le استقامة. Celui qui a dit la ilaha illallah et qui est resté ferme dans sa foi. Et quand on dit istiqama, c'est jusqu'à quand? Zoubir. C'est jusqu'à la mort. D'où le verset « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » « Adore ton Seigneur » et le sens du verset, c'est jusqu'à la mort, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne reprendre ton âme. C'est ça le istiqama. Et en commentaire, Allama As-Sa'di rahimahullah, dans son tafsir qui est exceptionnel, il dit que ceux qui ont dit « La ilaha illallah » qui restent de le droit chemin, c'est-à-dire ils ont reconnu, ils ont la conviction qu'ils ont été créés pour adorer Allah. Ils le disent au quotidien « Wa radu » et ils sont satisfaits de ce qu'Allah Rabbul Izza leur a donné, octroyé, et ils sont satisfaits également de donner leur vie pour Allah. Wastaslamu li amrihi, et ils se sont soumis totalement à Allah, c'est-à-dire que ils ont donné leur vie pour Allah. Ce qu'Allah a rendu obligatoire, ils vont le faire au mieux, et ce qu'Allah a interdit, ils vont s'en abstenir autant que possible. C'est des gens qui ne vont jamais faire passer leur nafs, leur passion, leur pulsion, l'envie de pécher avant l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est pas une question de Ramadan. Quand on dit istiqama, ce n'est pas une question de dernière décade. Ce n'est pas une question de chercher la nuit du Laylatul Qadr uniquement. Ce n'est pas se dire que si j'ai répondu présent dans la nuit du destin, ça fait 83 années d'ibadah, ce qui me permet d'être un peu plus cool après l'Aïd et vivre ma vie, hein, apprécier ma vie. Et ensuite, Ramadan prochain, je vais remettre 83 années d'ibadah en finalité. Ça, c'est un calcul comptable, ça. Cette vision très mathématique des choses, que j'ai 83 années par année, donc théoriquement, c'est un bilan extrêmement... Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'Allah attend de nous, c'est un retour vers lui. Craignez le jour où vous serez ramenés vers lui. Si j'éprouve la crainte d'Allah uniquement quand je rentre de l'i'tikaf, j'ai une ferveur spirituelle, l'ami d'un paquet, mutahajjud, enfin la totale, comme on sait, que, comme tout le monde fait en i'tikaf. Mais dans un coin de ta tête, tu sais pertinemment que le lendemain de Eid, je retourne à mon quotidien. Le week-end, je recommence à aller beaucoup en canote. Je dis pas que c'est interdit, mais je recommence un train de vie où il y a moins de pensées d'Allah, où il y a un peu plus de péché, où je néglige ma salah. L'objectif n'est pas atteint. L'objectif, c'est vraiment que ces nuits impaires et paires, que ce Ramadan, de façon générale, ben, nous permet de devenir pieux, de devenir meilleur. De Ramadan en Ramadan, on devient meilleur jusqu'à ce que on retrouve Allah Azza wa Jalla. Donc, ce croyant, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay istaqamu ala as-sirat al-mustaqim. C'est ce qu'on demande à Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Tout ça, c'est un puzzle gigantesque et magnifique, les versets du Coran. Ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Allah n'attend pas de nous que, je répète, Laylatul Qadr ou la dernière décade. Allah attend de nous, ihdina as-sirat al-mustaqim, que nous restions dans le droit chemin. Donc, thumma istaqamu, qui sont restés fermes. Et donc, tatanazzalu alayhimul malaïka. Là, Ibn Kathir et Allama Sa'di, ils précisent que ce verset concerne l'agonie, le moment de mourir. Parce que Mohammed, quand tu n'étais pas arrivé encore, on avait dit que la première question concerne un frère parmi nous qui a enterré un proche récemment. Et au moment, je n'ai pas dit tout ça tout à l'heure, non, au moment où on a placé le corps dans la tombe, déjà descendre d'un qabar, le moment où il a placé le corps dans la tombe, il a eu très peur. C'est quelque chose qu'il a, mais justement la mort, ça fait peur, ça. Et il est normal d'avoir peur de la mort. Il est normal d'avoir peur de la mort, d'accord? Donc la question légitime, qu'est-ce qui se passe exactement? Le défunt agit plus 30, agit plus 40, ou ainsi de suite, et quand ce sera mon tour, comment ça va se passer? Donc, ce qui nous sera profitable, c'est de voir ce verset d'Al Hadith qui nous rassure pour nos proches qui ont vécu dans le droit chemin, qui ont toute leur vie fait leur salat, lit le Coran, ils ont été, mashallah, des exemples de droiture et n'ont fait de mal à personne, alhamdulillah, et qu'Allah nous accorde une mort comme ça. Et quand ce sera mon tour, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet, ou alors il faut plutôt être rassuré et donc faire les efforts pour être rassuré, pour être de ceux qui seront rassurés dès la vision de l'ange de la mort. تتنزل يعلم السعدي الذي أي يتكرر نزولهم عليهم. Il y a beaucoup de malaïka qui viennent, qui se relaient, qui viennent. Est-ce que c'est des choses qu'on voit, ça? Nous, on voit juste grand-père ou grand-mère ou un proche sur un lit. Allah Akbar. Et j'ai assisté, Allah Musta'an, à des agonies. C'est parce que le prophète m'a dit que le sens du hadith, que la mort est une grande leçon. La mort, c'est-à-dire la mort d'un proche, pas ta mort à toi, hein, la mort d'un proche, le fait d'enterrer ton père, d'enterrer ta mère, d'enterrer un frère ou quelqu'un qui t'est cher, qui compte beaucoup pour toi, le fait tout d'un coup de le voir complètement on lui donne son roussal, on le retourne à droite, à gauche, on... alors que c'est une personne qui, dans la vie, elle était active, comme vous et moi, ça fait réfléchir. Et quand on porte la personne et qu'on le met dans le kabar et qu'on envoie les premières poignées de terre et qu'on l'enterre, et qu'on se dit que maintenant c'est fini, khalas, tu ne le vois plus. C'est une cassure. La personne là, de ce dunya, elle est déconnectée de ton corps, c'est terminé. Elle va habiter uniquement dans ta pensée, dans tes doigts, dans les souvenirs. Ce sont de grandes leçons de vie et qui te permettent de mieux préparer ton passage à toi par cette étape et le retour auprès d'Allah qui transite obligatoirement par la mort. Qu'on meurt d'une maladie, qu'on meurt, Allah nous protège, d'un accident de voiture suite à une, je sais pas, je pense aux frères et sœurs en Turquie, d'un tremblement de terre, quelle que soit la façon de mourir qui est subite ou lente et longue et qui nous fait souffrir, la finalité est la même, c'est un retour auprès d'Allah et c'est pour ça que nous œuvrons, nous prions, nous lisons le Coran, nous faisons le dhikrullah. Et c'est pour ça que je ne fais pas le zina. C'est pour ça que je n'emprunte pas d'argent avec la banque. C'est pour ça que je baisse mon regard. C'est pour ça que dans des assemblées entre amis ou au sein d'une famille, je ne fais pas la médisance. Je fuis les assemblées où il y a le haram. Tout ça, c'est pour bien mourir et rencontrer Allah dans qu'il est satisfait. C'est pour ça que nous œuvrons et que nous faisons de bonnes choses, mais également que nous restons éloignés du haram. Celui qui se donne à fond dans le ramadan, et on ne porte pas de jugement, hein, Allah nous pardonne parce que Allah seul sait qu'est-ce qu'on vaut à cet instant. Des fois, on voit des gens qui sont là uniquement durant le mois de ramadan, dans la masjid. Mais des fois, il y a des mauvaises pensées, on se dit, le grand retour, donc c'est quoi? C'est une petite remontada de 30 jours. Déjà, on n'a pas le droit de juger. D'accord. Et deuxièmement, maintenant, si on est à la place de la personne, si dans ta tête, c'est le mois d'Allah, et après c'est mes 11 mois à moi, c'est que la personne n'a pas compris. Miskin, c'est de l'ignorance. La personne n'a pas compris la risala de notre prophète, la mission de notre prophète, qui est de nous ramener vers le haq. Donc, cette personne bienheureuse qui sera nous, Inch'Allah, et c'était nos parents ou nos proches qui ont quitté ce dunya, qui ont vécu dans le droit chemin, au moment de mourir, les anges se succèdent et viennent le voir. Les anges se succèdent pour annoncer à cette personne qu'Allah est satisfait de lui. À quel moment il est encore vivant, hein? Qu'il est encore vivant. Je ne parle pas du défunt. Le défunt, c'est un autre niveau. La personne est encore vivante. C'est-à-dire, tu es en train d'attraper sa main. Tu essaies de le faire lire. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. On appelle ça le talqin. On essaie de le faire lire calément. On est en train de prendre un chiffon mouillé. On essaie de tamponner son front où il transpire. Vous savez que mourir avec le front qui transpire, c'est la signe d'une husnul khatima. Le croyant meurt avec le front qui est en train de suer. On est là, on est en train d'essayer de subhanallah, de l'assister. Nous, on est dans le gabrat, on est en train d'angoisser, on est en train de pleurer, on se prend la tête. J'ai assisté à des scènes où la famille, les enfants, il y avait tellement de monde, au moins 60 personnes autour du défunt, de la personne qui est en train d'agoniser, et tout le monde en train de lire. Donc c'est bien, en train de lire Yassine. Mais moi, j'ai trouvé cette ambiance anxiogène. Moi, ça m'a fait peur. C'était plus stressant que... Voilà quoi, moi je trouvais ça effrayant, d'accord? Alors que pour lui, là, s'il était vraiment sur le droit chemin, il n'y a pas plus zen que lui, il n'y a pas plus tranquille que lui. Pourquoi? À la limite, là, il n'est pas là avec Zot. Il n'est plus là, même si c'est un homme qui meurt après 50 ans de mariage, que son épouse soit là en train de pleurer ou ses enfants. Bref, rien à faire. Ce qui l'intéresse, ce qui le réconforte, c'est pas la vue de ses petits-enfants et tout. Non, ce sont ses malaïka. Allah takhafu wa la tahzanu wabshiru bi jannati allati kuntum tu'adun, qui lui annonce la bonne nouvelle. La takhafu, n'ayez aucune crainte. La crainte, ça concerne ala ma yustaqbal, je dis en français, concernant le mustaqbal, le futur. Tout ce qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui, là, tu es tranquille. Al-khawf, quand on a peur. En français, la peur, c'est pour quoi? C'est pour le présent et le futur. Wal-huzn, et la tristesse, c'est pour le passé. Donc, voyez la puissance des mots du Coran aussi. Le verset, presque tout le monde connaît ce verset. Mais quand on travaille en mode tafsir, on se rend compte qu'il y a une portée magnifique. Le verset inclut le futur, mais brasse également le passé. Allah ta'khafu, n'ayez aucune crainte pour tout ce qui va venir après, toutes les étapes jusqu'à ton accès au Jannah. Wala tahzanu ala ma mada. N'aie aucune crainte pour tout ce qui est derrière. N'aie aucune crainte parce que wa abshiru bil Jannah. Et parce qu'on t'annonce wa abshiru, et ils annoncent à cette personne la bonne nouvelle du Jannah. Allah te promet le Jannah. Allati kuntum tu'adun, qui est le sens du verset, la promesse d'Allah. Et As-Sa'di dit wa kana wa'dullahi maf'ula, et la promesse d'Allah elle est véridique. Vous savez qu'il y a 10 sahaba qui ont eu la bonne nouvelle du Jannah de ce dunya. Que 10? On a les 4 califes et puis il y a 6 autres sahaba. Les autres sahaba, on sait pertinemment qu'ils vont entrer dans le Jannah. Le croyant, il a l'annonce de la bonne nouvelle du Jannah aussi, mais عند الاحتضار, au moment de mourir. Il est encore vivant, hein, mais dans l'agonie. C'est pour ça, je me permets une parenthèse. Dans l'agonie, il n'y a plus de tawbah. Dans l'agonie, il n'y a plus de talaq. Dans l'agonie, il n'y a plus de mira, il n'y a plus d'héritage. Il n'y a plus de, pas l'héritage, il y a un autre terme, ça, quand, une donation. Quelqu'un en train de mourir, il ne peut pas dire, dans ses derniers instants, je donne la moitié de mes biens pour la construction du moufia. Et ainsi de suite. Ça ne marche, ça ne compte pas. Ça ne compte pas pourquoi? Parce que il est dans une étape, il est en train de quitter ce dunya, ses biens ne lui appartiennent plus. Khalas, il n'est plus considéré comme étant de le monde des vivants. Ses paroles, même s'il dit à sa femme, je te donne le divorce et tout, on considère qu'il n'est plus en lui d'une certaine façon. D'accord? Donc, c'est de ce moment-là, mais c'est rare que les gens disent délire, hein. À moins qu'il est sous l'effet de médicaments, de morphine, hein. Ça oui, là on délire. Mais quelqu'un qui est dans le droit chemin, qui a toute sa tête, bi'idhnillah, et qui meurt dans le ta'a, c'est que des bonnes choses. Soit on l'entend dire la ilaha illallah, on peut le voir sourire, d'accord? Après, j'aime pas ces photos Facebook, plein de photos de personnes mortes avec un grand sourire. C'est pas parce que le mafhoum moukha à la fin ne compte pas non plus, hein. La compréhension inversée, hein, ça compte pas. C'est pas parce que la personne est morte comme ça, le visage fermé, qu'il a pas eu de sourire. Donc, non, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, soit on peut voir une manifestation de quelconque manifestation, on peut l'entendre, ou il n'y a rien du tout, mais il y a des choses dans le monde de l'invisible qui se passent, qui nous dépassent complètement. Et on n'est pas conscient de tout ce qui est en train de se passer. Justement, c'est Malaika qui lui annonce qu'Allah t'annonce la bonne nouvelle, qu'il t'a accordé le Jannah. C'est ce croyant-là, c'est cette catégorie de iman que nous devons essayer de développer. Je cite un hadith. Après, je viens aux interventions pour ne pas perdre le fil. On a un hadith rapporté dans le Mousnad de Imam Ahmed. Vous avez déjà vu le Mousnad de Imam Ahmed? Il n'est pas traduit en français, hein? Il est comme ça. Il est plus grand que Bukhari Sharif. Ça me dit que Inna al-Abd al-Mu'mini, lorsque le croyant est dans les derniers instants de sa vie et il est en train de passer dans le monde de l'au-delà, des anges des cieux descendent avec le visage rayonnant. Et là, je réponds à une question qui va peut-être être posée. Même si c'est une mort subite, Allah protège, un accident, un impact où la personne meurt instantanément. Est-ce que dans cet espace-temps, il y a le même, entre guillemets, protocole de l'autre monde? Parce que quand quelqu'un est sur un lit d'hôpital, branché, débranché, on peut aisément comprendre que les anges viennent, lui annoncent la bonne nouvelle, un cortège, comme l'imam Qurtubi dit, de 500 malaïka qui sont présents, qui font une ligne jusqu'à perte de vue, et ensuite l'ange de la mort arrive. On peut comprendre, parce qu'il y a le temps, d'accord? Mais ça, c'est notre conception du temps. Notre conception du temps, c'est celui des êtres humains, de Banu Adam, de ce dunya. Là, on est dans le monde de l'au-delà. Tout est déconnecté. Il n'y a plus de temps là-haut. De l'akhira, il n'y a plus de temps. C'est l'éternité. Donc, il peut se passer des choses en une seconde pour nous, et dans l'autre monde, c'est quelque chose qui s'installe. D'accord? Donc, même en une fraction de seconde, tout ça, ça se passe quand le prophète nous a annoncé. Donc, cette personne reçoit la visite d'anges qui viennent des cieux avec le visage rayonnant. Ça me dit que le visage, c'est comme un soleil rempli de nour, et ces anges viennent avec un kafan, le linceul du Jannah. Même si nous on est en train de préparer son kafan, ça c'est notre kafan à nous. Le kafan du Jannah, c'est un autre kafan qui précède ce que nous on va faire, d'accord? Et ils amènent ce qu'on appelle hanoutun min hanout il jannah, c'est tout ce qu'on utilise pour embaumer et parfumer le mort. Nous on utilise quoi? Du camphre, d'accord? Mais quand on regarde les commentaires, c'est plus que ça. C'est, hein? des parfums, voilà. Tout ce que de notre urf, hein, de notre habitude, on n'utilise pas parfumer le monde. Mais là, ils amènent des parfums du Jannah, à un autre niveau. Là, là c'est pas Qurashi, là, c'est pas Arabi l'Oud, c'est pas Hamil al-Musk, c'est des parfums du Jannah. Donc, kafan du paradis, demande par moi comment écoute le maître, subhanallah. Des kafan du Jannah, des parfums du Jannah, hatta yajlisu minhumud dalbasar. Et ces anges viennent et ils vont s'asseoir auprès de la personne jusqu'à l'horizon, jusqu'à perte de vue. Ces anges-là, c'est un cortège. C'est comme ils dressent le tapis rouge à qui ? À l'ange de la mort. Hadith sahih, ça. Et ensuite, thumma yaji ou malakul maut, l'ange de la mort arrive. Et il fait salam à la personne. Hatta yajlisa 'inda ra'si. Et il s'assoit auprès de la tête de la personne. Alors là, il ne faut pas avoir de gêne ou autre chose, que on voit quelqu'un en train d'agoniser. Il ne faut pas s'asseoir à côté de sa tête. C'est la place de l'ange de la mort. L'ange de la mort n'est pas là avec lui. Il n'est pas dans ton monde à toi. Que tu sois là ou qu'il y ait un appareil. Comprenez, c'est décalé tout ça. C'est décalé. On parle d'un autre monde, là, c'est parallèle. Donc l'ange de la mort s'assoit auprès de la tête, je redis, hein, de cet homme pieux, inshallah, vous et moi. Fayaqul ayyatuha an-nafsu at-tayyibah, âme pure, c'est le moment de sortir. Il parle au ruh, c'est le moment de sortir. Il a maghfirati min Allah wa ridwan, pour rejoindre ton Seigneur et obtenir enfin son pardon et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et le hadith dit que l'âme sort comme, on va dire, un liquide qui sort d'une cruche avec facilité. Même si d'autres hadiths disent que l'âme en sortant, c'est une douleur terrible, il y a une douleur, mais l'âme du croyant sort avec cette facilité. Contrairement à l'âme des kafirs, où les anges sont obligés de les frapper pour que l'âme sorte, la protège de cette situation, l'âme du croyant sort avec une certaine facilité. Fayakhudhuha, l'ange de la mort prend ton âme. Malik al-Maut prend ton âme, j'allais dire en main propre, ce qui appartient aux anges, d'accord ? Il prend ton âme, et il dit que du moment où l'âme du croyant est dans les mains de l'ange de la mort, il ne le repose pas une seconde. C'est comme vous, hein, comme Irfan qui a eu son bébé, comme on vous donne ce nourrisson, d'accord ? Vous le tenez, comme tu vas connaître bientôt Assad, tu le tiens. Et ensuite, oui, les anges qui sont avec l'ange de la mort vont placer ce ruh, cette âme, dans le kafan qu'ils ont ramené de quel endroit ? Du paradis. Et ils vont parfumer ce ruh avec le parfum qui vient du paradis. Naam. Wa yakhruju minha. Ça, c'était la première étape. Et ils sortent avec l'âme. Ils sortent, ils vont où ? Ils quittent le corps. Et quand ils partent avec l'âme, c'est que la personne maintenant est décédée. Khalas. La mort, c'est mufaraqatur ruh, c'est quand l'âme se sépare du corps. Quand ils partent, c'est-à-dire que là, il est inerte. Là, le médecin légiste vient, il signe l'heure du. Et quand l'âme quitte l'endroit où la personne est décédée, partout où l'âme passe, ça dégage un parfum que le dunya n'a jamais connu, un parfum extraordinaire. Et maintenant, il quitte ce dunya, faya sa'adu nabi. Maintenant, les anges montent. Et ils montent où ? On a compris, aux cieux. Et à chaque fois que l'ange de la mort, accompagné du cortège de malaïka qui transporte l'âme de ce moumine, quand d'autres malaïka croisent ce cortège, tout ce qui est, il y a des choses qui se passent dans les cieux qu'on n'imagine pas. D'accord ? C'est pas le truc de la NASA ou l'autre américain là qui nous permettront de voir ça. On est dans un autre monde là, d'accord ? Quand les anges croisent ce ruh, ils demandent c'est qui ce ruh ? C'est qui ce ruh parfumé, magnifique et rempli de lumière. C'est-à-dire, c'est Izza. Et le ruh est conscient de tout ça. C'est-à-dire que cette personne qui est morte là, c'est tapis rouge pour aller jusqu'aux cieux. Il est heureux, il a eu la bonne nouvelle du Jannah. On n'arrête pas de le féliciter, de lui annoncer de belles choses. Il rencontre d'autres malaïkas qui font des éloges. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le dunya où il y avait des épreuves, des difficultés. C'est vraiment la délivrance pour le croyant. Je vais un peu plus vite. Jusqu'à ce qu'ils arrivent aux cieux. Et vous savez qu'à chaque ciel, il y a des anges. J'allais dire des anges gardiens, mais c'est pas dans le sens où on dit anges gardiens. Il y a des gardiens aux portes des cieux. Et ils ouvrent immédiatement, sachant que c'est accompagné par l'ange de la mort et tout, et ils voient que c'est une âme illuminée, et ils passent de ciel en ciel, où ils reçoivent là également le salam des malaïka, jusqu'à arriver au septième ciel, et auprès d'Allah. Et c'est là qu'Allah Rabbul Izzah dit Uktubu kitab abdi fi illiyin. Inscrivez ce serviteur, sens du hadith, dans le illiyin. Le illiyin, parce qu'on a ça dans le Coran, dans le Mutaffifin. Mais vous vérifiez, c'est jamais traduit illiyin. Ils traduisent par illiyin, parce qu'il n'y a pas de mot en fait. Le illiyun, c'est-à-dire où est-ce que le ruh va ensuite résider, il y a trois avis, mais qui se rejoignent. Certains savants disent que c'est dans le Jannah, d'autres savants disent que ça reste à la porte du Jannah, et l'âme profite de toute la lumière qui est dégagée et du parfum qui vient de la porte du Jannah. Et troisième avis, c'est à la droite du trône d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est l'âme du muttaqi. Donc ne cherchez pas où est votre papa qui est décédé, votre grand-père qui est décédé, votre maman qui est décédée. Du moment qu'ils étaient dans le droit chemin, l'âme de celui qui a vécu toute sa vie pour l'obéissance d'Allah, son ruh est dans le Jannah, ou selon la deuxième opinion, à la porte du Jannah, ou troisième avis, près du trône d'Allah. C'est pour toutes ces raisons que nous devons être quoi? L'adjectif être rassuré et tranquille. Ne vous faites aucun souci pour vos défunts. Ils sont près d'Allah. Donc même si la séparation elle est difficile, c'est une douleur, c'est humain. Le prophète a pleuré lui-même pour le décès de son petit-fils, d'accord? Mais ils sont auprès d'Allah. Ensuite, Allah dit aux anges, ramenez le ruh de mon serviteur dans son corps, afin, et c'est pour quelle étape? L'étape des questions dans la tombe. Le ruh redescend et réintègre le corps quand la personne est maintenant enterrée, pour la réponse des anges. Maintenant, on passe à l'étape suivante. C'est la deuxième partie de l'intervention. On est dans le hadith d'Ibn Majah. Ibn Majah fait partie des six grandes références de hadith, des kutub sitta, d'accord? Mais Ibn Majah pas traduit en français, malheureusement. Donc, Ibn Majah, il y a un hadith d'Abu Hurayra, radiallahu anhu, de lequel le Prophète dit que lorsque la personne maintenant est enterrée, alors je vais reprendre par un hadith intermédiaire. Le prophète, le sahaba, apprend qu'une fois, on a enterré un sahaba à Madina. On dit à Madina, c'est dans quel cimetière? Baqi'ul gharqad, qu'Allah nous l'accorde. Ça doit faire partie du droit quotidien du musulman. Ce que Omar ibn al-Khattab avait dit, Allah marzuqni shahadata fi sabilik wa amitni fi baladi rasulik. De mourir à Madina, ça doit être notre rêve, notre envie. Le prophète sallam avait enterré un sahaba, et il était donc avec d'autres compagnons. Et le prophète a attendu jusqu'à la fin de l'enterrement, jusqu'à ce que les gens quittent la tombe. C'est ce que nous voyons au quotidien. C'est la sunnat, hein. La sunnat del sang. C'est ce qui se passe au quotidien. Quand on enterre quelqu'un, on est là, on fait doua. Il y a des gens qui vont rester 5 minutes. Les proches vont rester 30 minutes. Mais combien de temps ça restait? Qui? Ça passe par la tête de qui de rester? Parce que c'est mon papa qui est mort, j'installe mon salat, je reste là. Je vais rester là jusqu'à quand? C'est pas possible. Le monde des morts, c'est un autre monde. Le monde des vivants, il y a des obligations. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a une mission qui continue pour toi. Et c'est comme ça. Et donc, Prophète Azam a attendu que les gens partent. Il n'y avait plus personne au toit de la tombe. Et le Prophète Azam était resté avec un petit groupe de sahaba. Et là, le Prophète Azam a dit, c'est un hadith qui est connu, vous l'avez tous déjà entendu, que le défunt, quand il est enterré, le sens du hadith, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous donne le sens à peu près, il entend les pas des dernières personnes qui le quittent. C'est poignant, ça, hein? C'est-à-dire qu'on a un état de conscience optimal et à 100%. En fait, c'est comme si tu es vivant. C'est comme si tu es vivant. Tu entends exactement, tu entends tout ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça aussi que dans certains hadiths, il dit, je ne veux pas revenir une étape en arrière, que le défunt, il est en difficulté quand il entend des gens pleurer abondamment. On peut pleurer, hein. On peut pleurer, c'est tout à fait normal, mais que c'est un peu comme les pleureuses d'avant, hein. Ou alors, ça je comprends, j'ai jamais compris pourquoi on met le corps auprès des dames, j'ai jamais compris. Le mort, le défunt entend. Donc c'est un état de conscience réelle. Et il entend les pas des dernières personnes qui quittent la tombe. Le trou, c'est combien de mètres, ça? 2,30? 2 mètres. Mais là, je dis 2 mètres couverts de terre. Avec 2 mètres de terre, théoriquement, on n'entend rien. C'est comme on a un mur de 2 mètres, d'accord? Mais voilà, c'est le monde de l'invisible. Il entend les pas. Déjà, nous, en tant qu'on est vivant, est-ce qu'on entend les pas des gens marchant? Et les dernières personnes, c'est qui en général? La famille, les proches, les enfants, le mari, si c'est une femme, ou l'époux, si c'est... et ainsi de suite, bref. Et lorsqu'il n'y a plus personne, c'est là que les anges arrivent. Les anges le font asseoir. C'est-à-dire, assis, il y a une planche, il y a machin, monde de l'invisible. Les questions dans la tombe se font en mode assis. Je répète, les questions dans la tombe se font en mode assis. C'est un autre monde. On n'a pas géré l'espace. On ne confond pas les mondes, d'accord? Ça nous fait bien comprendre que, vous savez, dans ce monde, on court à travers des réalités de ce dunya. Je cours derrière l'argent. Je cours derrière une part de la SCI. Pour une part de la SCI, mais les prennent plus part avec mon cousin ou à tourner le dos à mon frère, ma sœur, pour un morceau de terrain. Pourquoi il a gagné terrain Saint-Pierre-Centre, moi, il a gagné Ravine des Cabris. Pourquoi il a gagné un terrain qu'on n'a pas le droit de construire, il a gagné un terrain que le centre-ville, et là, on va rompre les liens avec un frère, une sœur, qui tu as grandi, tu as passé ta vie pour un morceau de terrain. Inqilab al-Umur. Quand le dunya rentre dans le cœur, c'est comme si qu'on a quelqu'un d'autre en face de nous. C'est grave. Et là, on est en train de courir derrière des réalités de ce dunya. Dirham wa dinar, c'est la réalité. Alors que quand on passe dans le monde de l'au-delà, il n'y a plus rien de cette réalité du dunya. Tout est changé. L'espace-temps, les valeurs, tout ce qui compte pas, il n'y a plus rien. Réfléchis. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine de tourner le dos à ta famille pour ton honneur, pour ton terrain, pour ton bâtiment, pour tout ça et tout et tout? Est-ce que ça valait la peine de tromper ta femme pour cette jeune stagiaire qui certes était d'une grande beauté, qu'elle a fait tourner de tête alors que tu as 23 ans de mariage et 3 enfants qui t'attendent à la maison? Tu as 3 enfants qui t'attendent à la maison, une épouse vertueuse qui cuisine, qui prépare ta maison, qui fait tout pour toi et qui t'attend le soir et qui a toujours été fidèle. Mais toi, parce qu'il y a une stagiaire qui est venue à ton travail, khalas, tu suis ton instinct animal et bestial. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de passer un moment, certes, de romantisme que tu n'as plus connu parce que tu as 23 ans de mariage et tu avais besoin peut-être de retrouver un peu de ces sensations, na'oud billah, mais c'est shaitan qui t'a emmené là. C'est shaitan, iblis, alayhi la'natullah, qui veut que dans la tombe tu souffres. Il y a des fois où on se projette dans le akhira, quand on lit, c'est pour ça qu'il est important de lire et de lire et de lire. C'est pour ça qu'on a un projet de bibliothèque à la madrasa et qu'on est en train de financer. Je veux que les élèves lisent les textes. Il faut reconnecter nos jeunes et nous-mêmes aux livres. Ceux qui ont acheté à Saadi, je pense qu'ils ne regrettent pas leur choix. Tellement important de se reconnecter au texte, de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort, pour que tu te rendes compte que cette jeune femme là qui te fait des yeux, cette jeune femme qui t'écrit et ainsi de suite, vous savez comment ça se passe, j'espère que vous ne savez pas, le point ne connaît pas, Allah te protège. Cette femme qui t'amène vers le haram, est-ce que ça valait le coup? Là, wallahi l'azim, ça ne valait pas le coup. Parce que quand tu es sur le tombe là, il n'y a plus personne avec toi, il n'y a que tes a'mal. Et quand on dit il n'y a que tes a'mal, malheureusement, oui et non. Heureusement, il y a tes bonnes œuvres, mais malheureusement, il y a également tes péchés. Tu ramènes ton zina de la tombe, hein? Tu ramènes ton haram de la tombe, hein? L'argent, l'intérêt, tout ce que tu as. Si tu n'as pas demandé tawbah, je précise, si on n'a pas demandé tawbah et qu'on est mort avec ses péchés, on les ramène avec nous. C'est grave. Ça, c'est l'échec d'un croyant. Ça, c'est une vie qui est totalement ratée. Donc, le fait de lire ces hadiths-là, ça te permet de revoir tes priorités et de te dire que franchement, ça ne valait pas la peine. Souvent, je cite des exemples extrêmes. Je vais vers le zina, vers le riba, parce que c'est deux péchés qui nous envahissent. Pour ceux qui travaillent, ceux qui ont besoin d'une voiture, d'une maison et tout, malheureusement. Et le zina, parce que le zina est partout. Et attention, le zina, ça touche les religieux aussi. Ça peut toucher n'importe qui. N'importe qui peut chuter à n'importe quel moment. Il sait que l'homme pieux, 50 ans de pas, la main se promet ça, la barbe la totale, il suffit un coup de foudre, d'accord, ou alors une tentation, il suffit d'une situation favorable. pas le péché d'une gravité extrême, mais le problème c'est que parfois c'est le petit péché qui est plus, qui est pas plus grave, mais c'est plus dangereux. Dans le sens où si, là il protège, hein, si c'est l'adultère, hein, le zina, si quelqu'un fait le zina, là, il sait qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave. Et il y aura un tawbatul nasuha, il va demander pardon à Allah, il va se rattraper. Mais celui qui fait 2 heures de temps de TikTok par jour, il écoute 2 heures de temps de musique par jour, c'est tellement devenu normal, qui sait qu'après 1 heure de temps de TikTok va faire 2 rakat salat tawbah et demander pardon et faire le niyat, oh Allah, je te promets jamais plus. Qui le fait? Prends, ça c'est des petits péchés qui restent. Ainsi donc, ce genre de hadith nous permet de comprendre certaines réalités. Donc, on revient au hadith et puis on va terminer avec ça. Les anges font asseoir la personne et lui posent des questions. Vous connaissez les questions? Madinuka, et que sais-tu à propos de cette? En parlant de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on a le verset يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. الثَّبَات, ça veut dire quoi? La fermeté, sens du verset. Allah accorde la fermeté à la personne au moment de mourir, mais également dans la tombe pour répondre aux questions des anges. Et là, on explique en commentaire, les savants disent que ce que les anges te posent comme question, là, la réponse, là, c'est pas une réponse qui va venir de ta mémoire. C'est pas genre, on nous fait d'or tous les jours. Mon Seigneur, c'est Allah. Mais ça, il n'y a même pas besoin de réviser, ça. D'accord? C'est pas non plus que, oui, crée un petit papier au maître de kafan. Un pense-bête. Non. Qu'est-ce qui parle, là? Ton cœur. Ton cœur. Le cœur est comme une éponge. Qu'est-ce que tu vas absorber avec cette éponge? Si c'est quelque chose de bien, qui sent bon, quand tu appuies, qu'est-ce qui sort? Ok? Mais si avec cette éponge, tu as essuyé quelque chose de sale, qui sent mauvais, même si l'éponge est sec, là, il n'y a plus rien, quand tu vas percer, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu as accumulé dans toute ta vie? Dans ce monde-là, on peut tromper tout le monde. Il fait croire qu'on est le plus bouzouk, le plus moutaki, ainsi de suite. Mais j'ai une double vie, j'ai une maîtresse, je fais des choses pas bien, je vole l'argent, bref. Et personne ne le saura, même après ma mort, j'allais dire jusqu'à ma mort. Mais jamais personne ne le saura. Dans la tombe, on ne trompe plus personne. Quand on passe de le monde de l'au-delà, on ne trompe plus personne. Ce qu'il y avait vraiment au fond de ce cœur, c'est ce qui va ressortir. Naam. Et quand le croyant, Allahumma ja'alna minhum, répond correctement à ces questions, je retrouve le hadith. Et le hadith dit que fayuthabbitu Allahu, Allah lui donne la fermeté pour répondre. C'est Allah qui t'inspire. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il y a un i'lan qui vient des cieux qui dit sadaqa abdi, que mon serviteur a dit la vérité. La vérité. Et encore une fois, dans la tombe, on ne ment pas. On ne peut pas dire des choses que le cœur n'a pas conviction. Et quand le i'lan vient des cieux que mon serviteur a dit la vérité, ça veut dire que son passage dans la tombe est agréé par Allah. Et là, qu'est-ce qui se passe? La tombe va s'élargir jusqu'à perte de vue et il va ressentir le parfum du Jannah. Et après, là je fais une synthèse de hadith, je quitte mon texte parce qu'on est en dehors du temps. Il est également stipulé que quand la personne, les questions étaient répondues et que tu es parmi ceux qui ont réussi leur étape, l'étape de la tombe, on te donne 2 visions. Vous connaissez le hadith? Le défunt a 2 visions. Hadith, hein? Première vision, Allah lui fait voir la place qui sera la sienne dans le Jannah. Qu'au bout de plus. C'est-à-dire, quand le hadith dit ma la aynun ra'at, ce qu'aucun œil n'a jamais vu du Jannah. C'est-à-dire, n'essaie pas d'imaginer le Jannah, mais quand tu es dans le qabr, dans la tombe, là tu vois le Jannah. Là, l'œil voit le Jannah. C'est-à-dire, Allah te fait voir, pas le paradis de façon globale, Allah te fait voir ta place à toi dans le Jannah. Donc, arrête de pleurer. Arrête de pleurer pour ton dada, pour ton nana, pour ton père, ou pour ta maman, ou pour ton épouse qui est décédée. S'il était dans le droit chemin, il n'y a pas plus heureux que lui. Être dans la tombe et voir ton Jannah, Allah, Allah, Allah. Ça, c'est la première vision. Quelle est la deuxième vision? Oui, ça, ce hadith est moins connu. C'est les hadiths qu'on cite en général dans les développements de taqdir, du destin. On lui montre la place, on est au conditionnel, qui aurait été la tienne si tu étais dans le mauvais chemin. C'est-à-dire la place de le Jahannam, j'ai pas dit. on montre à ce défunt, Muttaqi, quelle aurait pu être ta place dans le Jahannam si tu n'étais pas, si tu n'avais pas vécu comme ça avec la droiture, mashallah, mourir dans le droit chemin. Et là, qu'est-ce qu'il fait quand il voit cet endroit de le Jahannam? Il remercie Allah, qu'Allah l'a protégé de l'égarement. Que à cet instant où, justement, je reviens à cette jeune stagiaire ou à cette collègue dans le service compta ou dans le service de garde qui t'a fait une proposition indécente et que, alhamdoulilah, tu as tenu ferme. Tiens beau. C'est grâce à ça, entre autres, que c'est pas ça la première vision qui t'est montrée, la vision de Jahannam, qu'Allah protège. On connaît également, vous indique que dans le jour de Qiyamah, parmi les sept catégories de personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, une personne, un homme, qui a reçu les avances d'une femme. Et là, vous voyez la précision des hadiths. Une femme d'une grande beauté et de haute lignée. Ça, c'est important à souligner. Dire que cette femme-là, elle représente quelqu'un de la société. C'est vraiment une femme distinguée. Une femme distinguée. Tu dis non pour Allah. C'est pas parce que tu as un magasin pignon sur rue et que les Ataprawala y voient et que non. Je parle de ce croyant qui est en voyage d'affaires, il est en Thaïlande. C'est là où il n'y a pas le regard de ton épouse. Il n'y a pas de risque que ça met en mal ton couple. Parce que qu'est-ce qu'on peut craindre, nous? D'accord? Que si j'ai une aventure avec quelqu'un d'autre, ok, les gens vont cause, sur moi, le péché, je peux te demander pardon. Mais la première crainte d'un homme, c'est quoi? La peur d'un homme marié, c'est quoi? C'est que si mon madame y connaît, et que, ben, il demande le divorce, et qu'il n'a la garde des enfants. D'accord? Et c'est-à-dire, je perds mon royaume, je perds tout. Je perds tout ce que j'ai construit en 25 ans. C'est souvent ça. Enfin, pas souvent, mais c'est entre autres ça qui fait que on reste, on marche droit. On se laisse pas aller. D'accord? Donc moi je parle de celui qui est à l'étranger, qui n'a aucun risque pour sa famille, pour son couple, pour son honneur, pour son intégrité, pour sa famille, ainsi de suite. Mais qui malgré ça dit « Inni akhafullah ». Le texte du hadith dit « Non, j'ai la crainte d'Allah ». Et c'est là que le croyant remercie Allah qu'il a protégé de suivre ses instincts et d'aller vers le haram parce qu'il voit quelle aurait pu être sa place dans le Jahannam. Et quand il voit sa place dans le Jahannam, c'est la consécration. Et je termine avec un troisième hadith où la personne est tellement... Elle est tellement contente et heureuse. Elle ne sait pas qu'il y a des limites de ce monde de l'invisible. Il dit que laisse-moi, demande aux anges, je veux retourner auprès de ma famille pour leur annoncer tout ça. Et là, l'ange dit que non, c'est le moment de profiter de cet instant. Et là, la personne est habitée par un sommeil. Et j'ai trouvé un hadith qui est authentique hier que je n'avais pas vu. Je remercie encore la personne qui m'a orienté vers cette question. Il dit que ce défunt, il dort. Mais c'est un sommeil tellement doux. Et le hadith stipule la métaphore comme un jeune marié qui dort heureux, et qui sera réveillé le lendemain par sa bien-aimée. C'est beau ça, non? C'est-à-dire que ça, c'est la sérénité, le sakina. Alors qu'à côté, dans la tombe d'à côté, ou peut-être même la même tombe, vous savez que quand au bout de 6 ans, parfois on enterre de nouveau, 6 ans, moins, d'accord. On, dans une même tombe, après c'est là qu'on voit là que l'espace et le temps sont complètement dissociés. On peut avoir un même métrage, il y a un qui est châtié, il y a un qui est dans les bienfaits. C'est des choses qui nous dépassent complètement. C'est pour ça que moi des fois ça me fait un petit peu rire, pas rire, mais quand certaines personnes disent que mieux vaut qui enterre-moi dans la tombe, kabar marhum mon papa. Parce que mon papa c'était un mounnek. Ok? Mais c'est pas parce qu'il était pieux que on te met dans un endroit où, non, ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a aucune influence, aucune importance. Ça qui compte, c'est tes réponses à la tombe et la façon dont tu as vécu de ce dunya. Donc je reprends, il est réveillé par la résurrection. Et là, il y a une étape de crainte encore. La résurrection, c'est quand l'ange souffle dans la corne une deuxième fois pour le réveil des morts. Là, il y a, je passe pas, c'est pas l'étape de notre sujet, mais là, il y a la peur. Mais après, il y a encore une sakina qui va s'installer. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe pour nos défunts qui étaient dans le droit chemin. Et c'est ça mon objectif. C'est pour ça que j'œuvre, je travaille, je fais la nuit du destin et j'accomplis les bonnes actions et je reste éloigné du haram. Et je conclue, c'est ma troisième conclusion, par un hadith, je n'ai pas retrouvé le texte hier, mais c'est authentifié, qui dit que si on proposait au défunt, celui qui a eu toutes ces bonnes nouvelles, hein, de revenir, on lui donnait la possibilité de revenir vers ce dunya, de revenir vivre, de retrouver la vie, voilà, plus simple, de retrouver la vie et de retourner auprès de sa femme, de ses enfants, de ses proches, et avec ça, d'avoir quantité de bienfaits de ce dunya, jamais il voudrait retourner auprès de ses proches. Toi, tu donnerais 1 million pour qu'il revienne, ne serait-ce que un jour. Tu donnerais tout pour qu'il revienne, d'accord? Parce que quand il obtient, c'est pour ça que le qiyama, c'est nafsi, nafsi. Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Après, wa ummihi, la ilaha illallah. Ta mère, ta maman, tu ne veux pas la voir le jour de qiyama. Si ta maman te demande une bonne action, tu dis non. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ajib. C'est-à-dire qu'on on se déshumanise complètement. On se déshumanise complètement. Il n'y a plus l'humanité. On n'a plus notre identité. Là où c'est nafsi, nafsi. Et le seul qui pense à nous, c'est qui ? An-Nabi alayhi salatu wa salam. La personne, le défunt, n'est pas prêt à revenir de ce dunya, même si on lui proposait. Pour qu'on comprenne que quand on met les pieds dans le akhirah, si on a bien vécu de ce dunya, ce n'est que du bonheur. Donc faisons preuve de patience encore un peu. Encore un peu. Sabar par rapport aux obligations. On se réveille Fajr, même après Ramadan, même si on est fatigué, on a eu une journée difficile. On appelle ça as-sabru ala ta'atillah. Être patient et ferme de l'obéissance d'Allah. Soyons encore patients face aux tentations, quel que soit le péché qui se présente à toi. La deuxième catégorie de patience, as-sabru an ma'siyatillah. Être patient par rapport à la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire ne pas mettre un pied dans le haram. Donc soyons encore et encore un peu patients jusqu'à notre mort pour être celui qui reçoit la visite de l'ange de la mort. Et c'est un hadith que j'ai oublié de dire, de lequel est stipulé que l'ange de la mort est tellement beau. Il a une telle beauté quand il apparaît aux croyants que le hadith stipule que la vision, la simple, c'est pas péjoratif, la simple vision de l'ange de la mort sous cet aspect-là, c'est déjà une récompense d'une vie. Hadith. C'est déjà la récompense d'une vie pour un croyant que de voir l'ange de la mort avec une telle beauté. Donc il y a des choses magnifiques qui nous attendent. À nous de répondre présent. Et à nous de nous prendre en main dès maintenant. C'est une question individuelle, c'est une relation qu'on a avec Allah, et on se doit d'être performant dans nos salats, dans nos a'mal, dans notre relation avec madame, avec les enfants, dans nos relations avec les gens. Être un musulman comme le prophète alayhi salat wa sallam nous a demandé, d'être qu'Allah Rabbul Izzah accepte cette assemblée. Du coup, on a pris toute l'assemblée pour la question sur la mort, mais je pense que c'est un rappel nécessaire. Allah nous donne la stiqama, la fermeté de nos bonnes œuvres jusqu'à la fin de Ramadan et après Ramadan toute notre vie jusqu'à la mort. Jazakumullah khair. Je souhaite juste répondre à une question.